Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, celui qui a tout vu de ces 40 dernières années, le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, est notre invité. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Vers 11h30 ce matin, véhicule Citroën C3 se présentait devant l'immeuble au siège de Charlie Hebdo. Les deux hommes ouvraient alors le feu en rafale et tuaient 10 personnes.
Mohamed Merad va sortir brutalement de la salle de bain dans laquelle il s'était réfugié. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer.
Trois commandos coordonnés pour commettre les attentats au Stade de France contre des bars et restaurants dans les 10e et 11e arrondissements de Paris et au Bataclan.
À chaque fois que la France restait muette de sidération face aux vagues d'attentats dirigées contre elle, lui, il trouvait les mots. Visage incontournable de la justice et de l'antiterrorisme, François Molins a semblé rester imperturbable face à l'horreur. Et pourtant, qui pourrait réellement le rester? Il est notre invité ce soir. François Molins, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Il convient de vous appeler monsieur le procureur général près de la Cour de cassation. C'est le dernier poste que vous avez occupé. Oui. Vous avez été nommé en 2018. Vous êtes le visage de la justice, je le disais il y a un instant, depuis ces quatre dernières décennies. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Avec Chloé Triomphe, au nom du peuple français, Mémoire, paru chez Flammarion. Vous êtes retraité depuis le mois de juin 2023. 46 années de vie au service de la justice. Vous auriez pu vous reposer, être en maillot de bain Villebrequin en train de siroter un cocktail sur une plage au bout du monde. Eh ben non, vous avez décidé d'écrire et de livrer ces fameuses mémoires, qui sont des mémoires parce qu'elles permettent aussi de vous connaître davantage, mais qui sont plus que ça aussi. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ?
Il y a plusieurs raisons. Il y en a trois essentiellement, deux majeures et puis une troisième qui l'est un peu moins. La première raison, c'est de faire connaître le fonctionnement de la justice et le métier que j'ai exercé de procureur, parce que les gens ne le connaissent pas. Tout à l'heure, en rentrant dans votre radio, le responsable de la sécurité m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bonjour, monsieur le préfet ». Alors, je lui ai dit que j'avais pas du tout été préfet, que j'avais exercé un métier différent.
Ni commissaire, ni juge, comme on a pu vous appeler.
Tout à fait. Donc ça, c'est la première raison expliquer à nos concitoyens ce que fait un procureur et quel est son travail. La deuxième raison, c'est ce qui explique le titre, au nom du peuple français. La justice à laquelle j'ai participé comme procureur est rendue au nom du peuple français. Donc moi j'estime qu'il est normal, après une carrière comme celle que j'ai eue, de rendre compte d'une certaine façon de ses actions et des affaires qu'on a traitées, comment on a pu les traiter. Je pense que c'est assez légitime au regard du mandat qu'on a reçu, puisque c'est une forme de mandat, quoi. Et la troisième, c'est effectivement, c'est pas la majeure, mais je peux pas la nier non plus. Quand on est magistrat, souvent on fait l'objet d'attaques.
Ouais.
Dans le cadre du traitement des dossiers qu'on traite. Et c'est difficile parce qu'on ne peut pas se défendre.
Alors justement, vous aviez besoin de l'avoir, ce droit de réponse qu'on ne vous a pas forcément accordé du temps de vos fonctions sur différentes affaires sur lesquelles on va revenir.
Si vous voulez, il y a quelques dossiers dans lesquels il y a eu des attaques. Il y a des attaques des fois qui étaient certainement justifiées. Moi, je ne prétends pas être parfait, avoir tout fait toujours très bien. Mais je pense que la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Mais il y a des attaques dans certains dossiers que j'ai pu mal vivre. Donc j'ai profité du livre pour essayer de redresser les choses, pour montrer comment moi je les avais vécues.
On reviendra en détail justement sur ces fameuses attaques et ce droit de réponse que vous vous accordez à travers cet ouvrage. Vous avez été en première ligne des moments les plus dramatiques en France de ces quatre dernières décennies. Ça fait de vous en fait un acteur, je dirais un témoin unique de la marche du monde et de la société française. Comment est-ce que vous dormez aujourd'hui, François Molins ?
J'ai toujours bien dormi en réalité parce que je pense que quelque part, j'ai quand même eu un peu une sorte de force qui fait que quand je rentrais chez moi, le soir, j'arrivais à faire la séparation et à cloisonner mes problèmes professionnels et ma vie familiale. Alors ça, j'y suis pas toujours arrivé. C'est évident que sur les périodes chaudes et brûlantes, pour pas dire brûlantes, des attentats, je rentrais chez
en
moi.
En 2015.
J'oubliais pas et je dormais quasiment pas. Mais en dehors de ces épisodes exceptionnels, j'ai toujours arrivé à cet exercice. Et je pense que quelque part, ça m'a aussi préservé.
Mais d'où elle vous vient, cette force aussi ?
je sais
comment
pas.
Vous l'expliquez ? Comment vous avez pu traiter des affaires terroristes ? On y reviendra, Mohamed Merah, l'affaire Ziad Ebouna, et tous les attentats de 2015, et tous ces événements dramatiques de la société française.
Je dirais que...
Avec ce recul qui a été le vôtre, et on en parlera aussi dans vos discours, vos prises de parole, où on vous sentait parfois dénué de toute émotion. Il y a presque un côté dissocié, finalement.
Je vous assure qu'elle y est, l'émotion. Hein,
ouais, et
bon,
j'en doute pas.
Trop à transparaître. Mais comment expliquer ça ? Bon, je ne veux pas non plus me faire des compliments et tirer des lauriers sur mon cas, mais je pense qu'il y a peut-être deux choses qui l'expliquent. La première, c'est, je crois, la foi dans ce que je faisais, la foi dans mon travail et ma passion pour la justice qui ne m'ont jamais quitté. Et puis après, du courage, parce que je pense qu'il en faut. Et là, je n'étais pas seul, parce qu'il y a du courage individuel. Hein. En plus, je suis assez résilient, moi. Pour ne pas dire très résilient. Il y a du courage, mais il y a aussi une forme de courage collectif, parce qu'on ne voyait que moi, mais je n'étais pas tout seul. J'avais une équipe de collègues qui était avec moi. Et on tire beaucoup, en fait, de courage de ce type de fonctionnement collectif. Ça aide beaucoup. Parce qu'on n'est pas seul.
Vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes arrivé à RTL, le monsieur de la sécurité vous a reconnu, même s'il vous a appelé monsieur le préfet.
Oui.
Vous avez une popularité qui est très singulière pour un magistrat.
Ben,
très singulière.
Les gens vous connaissent souvent parce que...
Vous êtes populaire, vous êtes un visage de l'information judiciaire, vous l'avez été, et vous êtes également... Comment dire ? Vous aviez presque une responsabilité un peu paternelle dans la nation, dans des moments compliqués. Vous l'avez réalisé, ça ?
Oui, oui.
Est-ce que c'est lourd, justement, de porter ça sur ses épaules ?
Ben, au début, c'était un peu presque dérangeant, parce que je l'avais pas perçu, cette notoriété, cette popularité. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais un peu gêné, à vrai dire, au début. Et puis, avec l'habitude... J'ai fini par m'habituer, en fait, et je l'ai intégré maintenant dans la vie et dans ma vie quotidienne et dans la société dans laquelle je vis.
Vous l'avez fait par devoir, non pas par ego. C'est-à-dire que la lumière, c'est pas quelque chose... Non, mais c'est ce qui transparaît dans votre livre. C'est une vraie forme d'humilité et un regard très acéré, très vif aussi sur le fonctionnement de la justice, d'ailleurs à laquelle vous ne faites pas de cadeaux, hein, on y reviendra par moment. Ouais. On sent chez vous ce sens du devoir.
Il n'y a aucune part d'ego dans cette volonté de communiquer. C'est vraiment la traduction du sentiment d'un besoin très fort et, à mon sens, tout à fait légitime de nos concitoyens de savoir ce qui se passe. Donc la communication, elle est fondée essentiellement là-dessus. Et ça, je l'ai perçu très très vite, notamment à partir de l'affaire Merah. Je pense que c'était un devoir. Il fallait l'assumer. Et bon, dans un parquet, il y a un chef. Je pense que c'était effectivement au chef du parquet de Paris de l'assumer, parce que c'est aussi un exercice qui est exposé, qui exposait un petit peu, du jour au lendemain, ça m'a fait effectivement connaître, ça a pu poser des problèmes de sécurité, donc ça n'allait pas de soi non plus.
Ça se passe bien la retraite pour vous ? Vous avez du mal à décrocher ?
J'ai tourné une page, mais donc je suis plus magistrat, mais j'ai beaucoup d'activités, mais très différentes.
D'accord, vous
c'est une
donnez
sorte
des
de
cours,
troisième
vous
vie.
Enseignez, d'accord, c'est
cours,
une nouvelle vie qui s'ouvre.
Je fais de la formation
mais
à l'étranger.
Est-ce qu'on a du mal à décrocher de l'actualité judiciaire quand on a été drogué et dopé à ça pendant
un
toutes ces années ?
Un petit peu quand même,
oui.
Je continue à suivre, mais
évidemment.
On va dire de façon moins intense et moins collée à l'urgence que je n'ai pu faire pendant 40 ans.
Et c'est la raison pour laquelle on a le plaisir de vous recevoir ce soir. Vous restez avec nous, François Molins, on va passer une heure ensemble, avec nos auditeurs aussi, répondre à des questions bien précises, et notamment sur notre méconnaissance de la justice française. Je disais que vous représentiez une forme d'autorité rassurante. Dans un instant, vous allez jouer les professeurs pour nous expliquer ce qu'a été réellement votre métier, monsieur le préfet. Non, pardon. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
RTL, jour J.
Lisez les mémoires de notre invité au nom du peuple français, notre invité François Molins. Vous le connaissez, il a été le visage de la justice pendant 46 années, procureur général près de la Cour de cassation. Il faut le préciser aussi, François Molins, merci d'être avec nous. C'est vraiment le poste le plus haut placé finalement dans la magistrature française, celui que vous avez occupé, oui, depuis 2018.
Pour le parquet, pour le ministère public.
Oui. C'est vraiment le top du top, vous ne pouviez pas aller plus haut, quoi.
Non, je ne pouvais pas aller plus haut.
D'accord, ok. Vous avez toujours voulu faire ça ?
Magistrat
ouais.
ou
magistrat. Ouais, enfin emprunter justement
non,
cette
non,
voie qui a
pas,
été la vôtre.
En fait, c'est pas une vocation. Moi, quand j'étais gamin, j'étais plutôt attiré par les métiers militaires ou la médecine. En fait, j'étais pas scientifique, j'étais pas bon en maths.
Bon, alors donc c'était mal barré.
Donc, j'ai fait un bac littéraire, puis je voulais pas faire lettres, je voulais pas faire philo, sociaux. Je me suis retrouvé en droit. J'ai compris, j'aimais le droit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et petit à petit, en réfléchissant, j'ai compris qu'il y avait un métier qui correspondait à mon idéal, en réalité, et c'était magistrat. Donc c'est le seul concours que j'ai jamais passé dans ma vie, et je l'ai eu.
Des idéaux, vous en aviez à vos débuts, et des désillusions dont on va parler dans cette émission. Mais auparavant, dans votre livre, il y a un lexique, et il y a également un graphique pour expliquer l'organisation de la justice française. Pourquoi son fonctionnement est-il à ce point méconnu par les Français? Comment est-ce que vous expliquez ça?
Parce que, déjà, le droit est compliqué, et le langage juridique donc, est aussi compliqué. C'est un peu comme pour la médecine, le langage médical est compliqué, si on ne vulgarise pas les termes médicaux. Pour le droit, c'est pareil, le langage juridique peut être totalement abscon et incompréhensible pour le commun des mortels. Ça explique effectivement que si vous utilisez uniquement des termes juridiques sans essayer de les expliquer aux gens à qui vous avez affaire dans les prétoires, à l'audience, ils ne comprennent pas. Ils vont avoir besoin de leur avocat qui va leur expliquer, et ils ne savent pas parfois de quoi on parle. Si vous demandez par exemple à quelqu'un, je pensais à un radio-trottoir que j'ai vu quelque part, qu'est-ce que c'est que des dépens? Personne n'est capable de répondre, les gens ne savent pas.
Donc vous avez eu besoin de faire ce lexique et de
faire
ce graphique.
Donc j'ai voulu faire un lexique, effectivement, parce que comme je voulais faire un livre qui soit quand même pas simplement pour les juristes, mais pour l'ensemble des citoyens, j'ai voulu traduire donc effectivement ces termes techniques.
Et alors comment vous définiriez votre métier, justement? C'est quoi un magistrat du parquet déjà?
Un magistrat du parquet, d'abord c'est un magistrat, je dis ça parce que comme c'est un magistrat, comme un juge...
Ça n'est pas un avocat.
Ça n'est pas un avocat, c'est quelqu'un qui est dans la fonction publique de l'État, mais avec un statut différent du statut de la fonction publique. Comme c'est un magistrat, il a un statut avec des exigences éthiques et déontologiques particulières. Et puis, il a une spécificité, c'est que le procureur de la République, il est là pour défendre l'intérêt général et défendre les intérêts de la société dans l'application de la loi et son interprétation.
Donc ça consiste en quoi, en fait, dans un tribunal?
Vous avez deux volets, pour schématiser, dans le cadre des activités du procureur. Vous avez un volet dans lequel le procureur va appliquer et mettre en œuvre la politique pénale qui a été décidée par le gouvernement et par le garde des Sceaux. Ça, c'est l'application de la Constitution. Et il y a un deuxième volet dans lequel il va avoir en charge la direction de la police judiciaire, il va diriger les enquêtes et il va avoir pour mission, lorsqu'une infraction a été constatée, qui reçoit la procédure du policier ou du gendarme, de déterminer si elle doit être classée ou si elle doit être poursuivie. Si elle doit être poursuivie, de quelle façon elle doit être poursuivie devant le tribunal ou devant la cour d'assises. Son travail après, c'est d'aller à l'audience, d'essayer de démontrer au juge la culpabilité de la personne qui poursuit, de demander une peine, et si la peine est prononcée par la juridiction, par le tribunal ou la cour d'assises, de devoir la faire exécuter. Voilà tout ce travail. Donc ça amène à être en relation avec des tas de gens, des tas d'acteurs publics, des élus, des citoyens, des associations, et c'est vraiment un métier passionnant.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, et si vous l'acceptez, on va revenir sur vos mémoire, des souvenirs, des affaires aussi qui ont marqué la société française et que vous avez eu justement à traiter, et ça fera justement toute la démonstration de ce que vous venez de nous expliquer. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
François Molins est notre invité. Du drame de Furiani aux attentats de 2015, vous avez été le visage de l'action judiciaire à chaque épisode, François Molins, qui a marqué la société française. On va, si vous le voulez bien, revenir sur certains d'entre eux, parce que ça nous a marqué, nous, et à chaque fois, vous étiez là. On va commencer avec Furiani.
Oui.
On est en 1992, vous venez d'être nommé substitut du procureur général près de la cour d'appel de Bastia, vous êtes chez vous. Comme bon nombre de Français, vous vous apprêtez à regarder le match SC Bastia Marseille. Vous allumez la télé et voici ce que l'on entend.
Il y avait beaucoup de monde, donc comme vous l'a dit Thierry, et vous voyez que c'est toute la partie haute de la tribune qui s'est effondrée. Je suis allé faire un tour, malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que vous, car il y en a qui ont été presque, je dirais pas empalés par la ferraille, mais il y a eu des... Enfin, j'ose pas m'exprimer parce que et être trop catastrophique dans mes pronostics, mais j'ai bien peur que malheureusement on compte plus que des blessés graves.
Jean-Michel Larquet, qui cherche les mots justement pour expliquer ce drame de Furiani auquel il vient d'assister. En fait, il y a une tribune provisoire qui s'est effondrée sous le poids des supporters hyper enthousiastes qui tapaient du pied, qui redoublaient justement d'enthousiasme dans cet exercice. Bilan, Jean-Michel Larquet ne le savait pas à ce moment-là, 19 morts et plus de 2000 blessés. Quand je vous ai dit, tiens, on écoute cette archive et je vous ai observé, il y a quelque chose qui s'est allumé en vous et comme une forme de, je sais pas, on revient finalement au premier grand drame que vous ayez eu à traiter.
Oui, je me souviens très bien. Donc effectivement, j'étais chez moi avec mon procureur général que j'avais invité parce qu'il était célibataire géographique, on regardait le match. Et effectivement, Bastia était dans un état d'excitation mais incroyable depuis plusieurs jours. C'était vraiment l'événement, un événement comme il n'y en avait pas eu depuis des années. Et là, effectivement, on est dans la sidération devant ce spectacle. Hein, on va avoir beaucoup de mal à aller là-bas. On va trouver un policier qui va accepter de nous conduire à l'aéroport, qui est transformé en hôpital. La pelouse est absolument... Il y a un silence sidéral avec uniquement les bruits d'hélicoptères qui atterrissent et qui décollent, des couvertures des gens avec des brancards, des couvertures de survie partout sur la pelouse. Enfin, c'est incroyable. Et cet événement, en fait, est la conjonction de plusieurs choses, hein, clairement. Moi, j'en vois au moins trois. D'abord, une volonté de gagner beaucoup d'argent.
De la part
du club, hein, effectivement, mais qui s'accompagne aussi du souhait de pouvoir permettre à un maximum de Corses de venir regarder le match. Il y a ensuite la méconnaissance des règles de sécurité par la société qui édifie la tribune. Et puis, enfin, il y a, j'allais dire, l'impéritie, hein, avec un système où on manque de rigueur. Hein. On appelle ça en Corse la tchakore. C'est la commission de sécurité, en réalité, se polarise sur la gestion de l'événement au plan de l'ordre public et pas du tout sur la vérification et le contrôle de l'assise au sol de la tribune qui vient d'être construite. Et tout cela explique ceci et...
Et toutes ces défaillances expliquent ce drame. Un drame qui vous a marqué parce que ça a été le premier, je puis dire, d'une série de drames que vous avez eu à traiter.
Oui, tout à fait. On est confronté à quelque chose d'hors norme, hein, et où effectivement, après, il faut avoir le discernement dans la gestion du dossier, parce que j'essaie de l'expliquer dans le livre. Si on avait appliqué la procédure classique, le dossier aurait été confisqué aux Corses et transmis à un autre tribunal pour être instruit et jugé.
Vous avez appris beaucoup, donc, j'imagine, à ce moment-là.
Et avec le procureur général, on a compris que, il a compris surtout, lui, le premier, qu'il fallait surtout pas faire ça, et il fallait faire en sorte que la justice corse juge ce dossier pour éviter ce sentiment de dépossession et pour montrer aussi que la justice corse, avec les moyens qu'elle avait dans l'île, hein, la justice française en Corse était capable effectivement de mener à bien ce type de mission.
Ce qui a été le cas. Puis il y a eu Lyon, il y a eu Angers pour vous et il y a eu Bobigny. Alors vous le dites, vous saviez que vous iriez un jour à Bobigny. Alors, il y a des gens qui ont des rêves comme ça. Bobigny, c'est a priori pas la destination carte postale la plus glamour que l'on puisse imaginer. Mais là-bas, il y a un tribunal qui est singulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est particulier et en quoi il vous a marqué et pourquoi vous avez cet attachement si fort à Bobigny?
Parce que c'est une histoire particulière, c'est un tribunal assez récent, hein, qui a été créé au moment où on a éclaté le département de la Seine, hein, où on a créé ces départements de la Petite Couronne. Donc c'est un tribunal qui a eu une vie un peu compliquée.
Il faut l'expliquer, hein, Bobigny, c'est banlieue parisienne, c'est le 9-3.
C'est la Seine-Saint-Denis, c'est 135 nationalités, c'est pour ça que je l'appelle le département monde, hein, avec des cultures de tous les continents. Et un tribunal, effectivement, qui a été construit dans les années 70 avec de la brique, du verre, une sorte de métal bleu, et qui finalement a mal vieilli, hein, c'est un peu comme les COS Payron, hein, avec des fenêtres qui tombaient, des écoulements partout, enfin, tout ça a été un peu fou. Donc une juridiction, en fait, qui nécessiterait beaucoup de moyens, qui est toujours confrontée à des tas de problèmes, dans un département qui n'a pas toujours eu tous les moyens dont il aurait eu besoin, et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a beaucoup de solidarité, on se serre les coudes, entre acteurs de l'État, entre acteurs judiciaires, entre acteurs associatifs, la police, et effectivement, ça peut créer des synergies et des expériences extrêmement intéressantes.
Voilà, et en fait, une juridiction, je dirais, laboratoire. Un petit peu, et pardon de le dire comme ça, un peu des merdes.
Oui,
c'est-à-dire pas beaucoup de moyens, une volonté d'en découdre, justement, avec des causes très importantes comme la protection des mineurs, ou comme les femmes. Et justement, c'est à Bobigny qu'a été créé le téléphone Grand Danger pour les femmes victimes de violence lancé par Ernestine René, que l'on salue et qui un jour est venue à votre rencontre pour vous parler de ce projet. C'est en fait de Bobigny que partent de grandes idées, de grandes réformes, je dirais, judiciaires.
Tout à fait. Il y en a eu d'autres. Les maisons de justice, c'est les procureurs de Bobigny et de Pontoise qui les ont montées. Les convocations par officier de police judiciaire, convocations sans avoir passé par un huissier, c'est aussi Bobigny. Donc en fait, effectivement, c'est une dimension laboratoire où on va expérimenter et en ayant peur de rien, même si personne n'y avait pensé, ni dans la loi, ni au ministère.
Ça veut dire donc, monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, que vous êtes 9-3 représente.
Oui,
quoi.
Oui.
Ah ouais, c'est ça.
Et je suis resté très attaché à ce département.
Exactement, qui n'est pas si loin d'ici. On va se retrouver dans un instant. On va revenir, alors je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent, on va la rappeler même aux plus jeunes, à l'affaire Ziad Ebouna.
Ziad Ebouna.
Parce que ça, c'est une affaire qui vous a marqué et qui a aussi marqué les premières critiques à votre endroit dans l'exercice de vos fonctions. Ce sera tout de suite avec vous sur l'antenne d'RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
François Molins, vous êtes notre invité ce soir avec vous. On revient sur les grands événements qui ont marqué la France ces 40 dernières années. Événements que vous avez eu à traiter. Vous avez été le visage de la justice et vous êtes intervenu justement médiatiquement sur beaucoup d'événements. On va bientôt parler des attentats de 2015 parce que c'est, j'irai vraiment là que le public, les Français vous ont découvert à travers des interventions qui ont forcément marqué les esprits. Mais auparavant, quelques années avant, 10 ans même. On est en 2005 et il y a une terrible affaire qui secoue la France et qui va déclencher des émeutes et des violences urbaines. On est en 2005 et c'est l'affaire Ziad Ebouna.
Flambée de violence cette nuit à Clichy-sous-Bois après la mort de deux jeunes adolescents qui, inconscients du danger, s'étaient cachés dans un transformateur EDF. Ils ont été électrocutés.
Alors, voici effectivement cette affaire résumée en quelques mots par une journaliste. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui était Ziad Ebouna?
Mais ce sont des jeunes de Clichy-sous-Bois qui appartiennent en fait à un groupe de jeunes. Je crois qu'ils sont quasiment parmi les plus âgés. Il y en a des beaucoup plus petits. Ils viennent d'une partie de foot. Ils vont passer par un chantier. Et il va y avoir à ce moment une intervention de la police. Ils ont peut-être été, j'ai pas à souvenir très précis là-dessus, peut-être à un moment donné, on a pensé qu'ils allaient faire un mauvais coup sur le chantier. En réalité, ils ont rien fait de mal, ces jeunes.
Ils rentraient chez eux.
Ils rentrent chez eux. Et ça signe d'ailleurs le type de relation qu'il y a entre les jeunes et la police dans ces départements. La seule vue d'uniforme bleu de gens de la BAC, du commissariat, suffit à leur faire prendre leur jambe à leur cou et donc ils prennent la fuite. Les policiers vont les poursuivre, les chercher. Et en essayant de se cacher, de se soustraire à la recherche des policiers, il y en a deux qui vont rentrer dans ce centre électrique où deux vont mourir et un sera très gravement blessé. Donc c'est une affaire qui est particulièrement dramatique et qui s'insinue dans une période qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est avant 2013, il y a encore la possibilité pour le politique de donner les instructions, que ça signe bien évidemment des relations un peu particulières. Alors, je ne veux pas dire que j'ai eu des instructions dans ce dossier, j'en ai eu aucune. Mais le dossier va très vite être pollué par des déclarations du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, puis du Premier ministre, qui effectivement vont dire qu'il n'y a pas de course-poursuite, que les
jeunes n'ont pas été poursuivis par les policiers.
Le Premier ministre, lui, venant dire qu'il y avait une tentative de cambriolage qui pouvait leur être imputée. Et tout ça, j'allais dire, a amené le dossier sur une querelle sémantique, course-poursuite, pas course-poursuite, dans laquelle, moi, finalement, je me suis laissé enfermer au cours de cette conférence de presse, et où je reconnais, j'ai pas su, je pense, en réalité, trouver les mots qu'il aurait fallu peut-être trouver pour expliquer correctement tout ça. Le problème, c'est que je les ai toujours pas aujourd'hui.
Voilà, mais j'entends, et on l'entend d'ailleurs, mais en fait, on vous a reproché à ce moment-là de vous mettre d'office du côté des forces de l'ordre, de ne pas avoir de compassion pour le sort de ces gamins, et on vous a reproché une certaine lenteur à ouvrir une information judiciaire.
La compassion, je l'avais. C'est pour ça que j'ai voulu expliquer dans le livre.
Et c'est ce que vous faites.
En fait, je ne tarde pas à ouvrir une information judiciaire parce qu'on n'a pas de raison d'en ouvrir. On a une raison de saisir un juge d'instruction le jour où on obtient les communications radio entre policiers et où il y a cette fameuse phrase d'un policier qui dit après tout, s'ils sont rentrés dans l'usine électrique, je ne donne pas cher de leur peau. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Il faut transcrire tout ça en procédure. Ça prend du temps. On va faire travailler les policiers toute la nuit, toute la matinée. Il faut entendre les policiers mis en cause. Et après ça, on saisit un juge d'instruction. Donc, en réalité, il n'y a pas eu de retard à saisir un juge d'instruction.
Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cette terrible affaire, justement, et des reproches qui vous ont été faits à ce moment-là?
Sur les reproches qui m'ont été faits, je les ai trouvés, on va dire, injustes, hein, parce que je pense que je ne méritais pas ça. La compassion de mon fort intérieur, je l'ai eue. Hein. J'ai toujours trouvé que c'était une affaire particulièrement dramatique hein, pour ces jeunes, pour leur famille. Dramatique aussi sur les relations qu'il y a entre les jeunes et la police dans ce département. Je trouve ça infiniment regrettable. Et franchement, la justice, elle a fait ce qu'elle a dû faire à l'époque dans ce dossier-là. De toute façon, les décès intervenus expliquent largement la flambée de colère qu'il y a eu après. Hein,
Mais est-ce que vous vous êtes pas dit à ce moment-là, François Molins, ok, donc en fait, tout le monde y est allé du traitement de cette affaire. Médiatiquement, moi, je vais m'engager peut-être davantage, prendre la parole et faire passer aussi le son de ma voix.
Mais je savais pas comment faire. Encore une fois,
non, mais c'est une question que je me pose parce que vous l'avez fait après.
Encore une fois, moi, j'ai conscience de pas avoir su trouver les bons mots. Le problème, c'est que je suis pas sûr encore aujourd'hui de savoir ce qu'il aurait fallu faire.
Ouais. Et c'est
pas de la mauvaise volonté
de votre métier.
C'est pour ça que je vous dis, je me suis laissé enfermer dans une polémique sémantique dont je n'ai pas su sortir.
2012, Mohamed Merah fait couler le sang de 7 personnes, dont 3 enfants à Toulouse et Montauban. Et puis en 2015, ce sont les attentats. Cette vague d'attentats, Charlie Hebdo en janvier, l'hypercachère, le 13 novembre au Stade de France et au Bataclan. Une année, je dirais, d'asphyxie. Une année suffocante. Est-ce que vous vous êtes senti, c'est d'ailleurs l'année où on vous a, je dirais, le plus entendu, et que vous avez pris aussi dans l'esprit des Français une place très particulière. Est-ce que vous vous êtes senti, François Molins, pris dans une spirale? Nous, on a eu le sentiment que ça n'arrêtait jamais.
On est en réalité, on a effectivement le sentiment d'être pris dans une spirale infernale, hein, un cycle infernal, en fait, dont le contrôle nous échappe complètement, et on voit bien que malgré tous les efforts qu'on fait pour améliorer la qualité de nos actions avec les services de renseignement et la police, ça continue, on n'arrive pas à enrayer le phénomène qui ne cesse de monter, et on est effectivement à ce moment-là confronté à une menace très lourde, hein, où on nous dit qu'il va nous arriver des choses très graves, mais on ne peut pas savoir où, ni quand, ni comment. Donc effectivement, ce sentiment on l'a. Et encore plus pendant les dossiers quand on traque les terroristes.
Évidemment. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était toutes les 5 semaines qu'il y avait un attentat
Après 2000, plutôt toutes les 5-6 semaines, moi j'avais fait le compte sur les années fin 2016, 2017 et 2018, effectivement.
Comment vous avez dormi à ce moment-là? Là, pour le coup, ça a été plus difficile.
Pendant les attentats, on dort très peu, hein. On dormait très peu, moi je dormais... Il y a des nuits où je tenais avec 2 heures de sommeil, sinon 3 ou 4, parfois 5.
On ne baisse jamais les bras dans ces moments-là. On ne se dit pas à un moment donné que...
Non, on tient sur les nerfs, je pense.
Ouais.
On tient vraiment nerveusement, mais aussi avec le sentiment que ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent fièrement « je peux dormir que 2 ou 3 heures par nuit ». Non, moi j'ai besoin de 7 ou 8 heures de sommeil par nuit pour trouver mon équilibre physique. Hein,
et vous ne les aviez pas.
Et intellectuel. Et donc, je pense qu'on tient sur les nerfs et puis on tient aussi en réalité avec une sorte de... Je pense que derrière tout ça, et mes collègues pourraient le dire comme moi, je pense qu'il y a peut-être une sorte de force morale qui fait qu'on a conscience des enjeux qu'on va devoir relever, du défi qu'on va devoir relever, et ça vous booste, quoi. Ça vous tire vers le haut, et de toute façon, vous savez que vous n'avez pas le choix.
Et pourtant, c'est à ce moment-là, au moment du Bataclan, que vous avez eu besoin d'aide. On va se retrouver dans un instant, parce que votre livre nous permet de mieux comprendre aussi la machine judiciaire, mais elle nous permet aussi de mieux vous connaître. Et justement, ces émotions qu'on ne voyait pas forcément transparaître dans vos prises de parole parce que ça n'était pas le lieu, eh bien, elles sont quand même dans votre livre. Alors, vous les planquez un peu, hein, mais qui lit bien les voit très bien. À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et cette question qui ne cesse de revenir, François Molins, vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie de votre livre chez Flammarion, Au nom du peuple français, mémoire. Cette question que je n'ai de cesse de vous poser, comment allait votre sommeil au moment des attentats, au moment de Furiani, au moment de Mohamed Merah et de toutes ces affaires dramatiques que vous avez eu à traiter lors de votre carrière de magistrat. Je n'ai de cesse de vous poser cette question parce que vous avez vu ce qui nous a été parfois épargné. Mmh. On nous a rendu compte, vous nous avez rendu compte de ce que vous voyez, notamment quand vous êtes rentré à plusieurs reprises dans l'enceinte du Bataclan, après les attentats. Et en fait, les images nous viennent par les mots que vous avez employés pour nous décrire la situation. Le Bataclan, vous avez dû y rentrer à 3 reprises.
Oui.
À 3 reprises pour prendre la mesure et comprendre ce à quoi vous assistiez. Ça fait l'objet de lignes qui sont bouleversantes.
En fait, j'y suis rentré 3 fois comme ça et après coup, je me suis demandé pourquoi j'étais rentré 3 fois. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense qu'en réalité, je refuse de croire à ce que j'ai vu.
Mais parce que ça n'était, j'imagine, pas croyable, enfin.
C'est pas croyable, et puis dans mon fort intérieur, j'aurais imaginé que ce soit pas réel, quoi. Malheureusement, ça l'était, et je pense que c'est pour ça que je suis revenu 2 fois supplémentaires devant le spectacle en principe. Bon, c'est pas des choses qu'on fait, mais je pense que je refuse d'y croire. Il y a un phénomène de déni, en réalité, peut-être en moi-même.
Depuis que vous avez quitté vos fonctions, il y a plusieurs mois, oui. Hein, c'était en juin 2023, est-ce que finalement vous revoyez tout ça, toutes ces images, avec un autre regard? Vous nous parliez de cette tension, cette force morale, cette tension qui vous permettait de tenir. Vous n'aviez pas d'autre choix. Là, vous pourriez avoir le droit de craquer, François Molins, et de recevoir ces images-là et ces souvenirs de façon différente.
Alors, non, je pense que je les revois toujours de la même façon. Ouais. Il y a toujours beaucoup d'émotions. Avec tout ça, mais après, bon, l'émotion, je l'avais, mais elle ne se voyait pas forcément dans les conférences de presse, hein, parce que c'est pas un lieu non plus où on doit... L'émotion, elle est en soi, quoi. Hein. Elle est peut-être perceptible. Moi, je me connais. Effectivement, je la ressens au début des conférences de presse. Je vois que j'ai la gorge un peu nouée dans la façon de m'exprimer. Après, ça passe parce que je la maîtrise. Mais l'émotion, elle est en moi.
Vous avez eu besoin d'aide après le Bataclan?
En fait, je me posais beaucoup de questions parce que on avait surtout vu que certains collègues avaient du mal à encaisser ce qu'ils avaient vu et n'allaient pas bien. Donc on a décidé de leur proposer une aide psychologique et leur faire rencontrer un psychologue. Et moi, c'était un peu l'effet inverse, c'est que je trouvais que j'allais relativement bien et du coup je culpabilisais parce que je me disais mais comment est-ce que tu peux être comme tu es et tenir le coup après ce que tu as vu. Donc à un moment donné, je me suis dit il y a quelque chose de pas normal. Donc du coup je suis allé, de toute façon j'ai donné l'exemple, hein, comme j'étais le chef, c'est moi qui le premier qui suis allé voir la psychologue et je suis resté 1 heure avec elle, on a beaucoup discuté, et puis elle m'a dit que finalement, j'étais normal, que j'avais pas de questions particulières à me poser, que dans ma façon de ressentir les événements et tout, ça allait, quoi. Et puis, elle m'a calmé.
Et vous ne l'avez toujours pas revu? Vous ne l'avez pas revu?
Non, non, non.
Vous n'en ressentez pas le besoin?
Non, pour le moment, je n'en ressens pas le besoin, mais c'est vrai que les images reviennent... régulièrement, c'est pas... Enfin, régulièrement, oui, régulièrement, ça continue, et puis de toute façon, je sais que c'est quelque chose qui me quittera jamais. Hein.
Vous avez partagé ça en famille, hein, par exemple, quand on rentre le soir chez soi, qu'on retrouve son épouse?
Non, non, j'évitais de... Mon épouse... Non, j'évitais de lui raconter ces choses-là. J'ai vraiment gardé ça pour moi.
Donc c'est un chemin, c'est une forme de souffrance en solitude.
On s'est protégé mutuellement, on va dire. Elle m'a protégé à sa façon et moi je l'ai protégé à la mienne.
Et comment elle vous a protégé, elle?
Elle m'a protégé en m'entourant et puis en faisant en sorte que je n'ai vraiment à prendre en charge aucun aspect domestique de la maison. C'est-à-dire que je m'occupais vraiment de rien. Elle a vraiment fait pour m'éviter tous les soucis qu'il peut y avoir dans la vie au quotidien, dans un couple et dans une famille.
Vous lui rendez hommage, hein, dans votre livre, à votre famille aussi, vos enfants à qui vous avez pu manquer parce que vous étiez justement au service de la justice et de la France. Vous avez eu ce besoin aussi de leur dédier et de leur peut-être aussi, j'imagine, à travers ce livre, de leur expliquer ce que vous ne leur aviez pas forcément dit.
Parce qu'encore une fois, quand j'entrais à la maison, moi, j'étais cloisonné et je parlais pas des problèmes que j'avais pu avoir au travail.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé, votre femme, quand vous êtes mis à faire de la politique? Ce fameux pas de côté que vous expliquez dans votre livre.
Figurez-vous que c'est un peu à cause d'elle que j'y suis allé.
Ah bon?
Oui.
Ah, ça, vous le dites pas.
Non, mais en réalité, parce qu'elle me l'a rappelé récemment. En réalité, pourquoi je suis allé au cabinet, moi, je suis pas.
Alors, on va expliquer. Vous avez été directeur de cabinet des ministres de la Justice, Michel Alliot-Marie et Michel Mercier, sous Nicolas Sarkozy.
Sous Nicolas.
Ce fameux Nicolas Sarkozy, que vous évoquiez tout à l'heure, dans la gestion du drame en 2005 de Ziad Ebouna.
Alors, pourquoi j'y suis allé? Je suis pas encarté syndicalement ni politiquement. Mmh. J'étais procureur Bobigny et je travaillais beaucoup avec la police. Et comme le 93, c'est un département où il y a beaucoup de visites ministérielle, notamment des ministres de l'Intérieur. Madame Alliot-Marie avait, je pense, apprécié le qualité du travail que je faisais avec la police et la gendarmerie locale. Donc, quand elle a été nommée, c'est ce qu'elle m'a dit, hein, elle m'a dit qu'elle avait apprécié ma façon de travailler, qu'elle voulait me récupérer comme directeur de cabinet. Et moi, j'étais vraiment à 50-50.
Mais ça vous a flatté quand même, parce que c'est flatteur d'avoir.
Oui, c'est flatteur, mais j'avais pas trop envie d'y aller. J'ai failli dire non.
Pourquoi ?
Et parce que c'est un monde que je connaissais pas, je pressentais la difficulté, j'étais jamais passé en cabinet, moi j'avais jamais été conseiller dans un cabinet, et en fait c'est mon épouse qui a un peu emporté la conviction, elle m'a dit, écoute, moi je pense que comme ça t'a été présenté, tu peux pas refuser.
Eh ben.
Et j'y suis allé.
Bon, deux ans et demi.
Deux ans et demi, oui.
Ah bah dis donc, vous le dites comme si vous aviez le poids de la politique française sur vos épaules.
Non, mais c'est des... Ça n'était pas pour vous. Il faut imaginer ce que c'est. Hein. Je voyais mon épouse au petit déjeuner, je partais travailler à 7h30 du matin et je rentrais le soir à 10h30
d'accord.
du soir.
Mais quand même, François Molins, vous avez une épouse qui a tout compris dans votre carrière de magistrat, qui vous a accompagné dans les moments les plus difficiles. Vous pouvez pas me dire que c'est simplement parce que vous rentriez tard à la maison que vous n'avez pas aimé la politique.
Non. Non.
Vous n'avez jamais eu d'ambition politique
non,
parce que il y en a quand même qui ont prétendu que vous visiez.
J'essaie d'expliquer dans le livre ce que j'ai mal vécu en réalité, c'est que c'est bien d'être dans un cabinet quand on est magistrat parce qu'on a une certaine vision des choses et des raisonnements et des solutions à trouver. Mais la politique, souvent, c'est l'art des compromis. Il y a des arbitrages interministériels. On peut se trouver à des moments en situation de porter des choses auxquelles on n'adhère pas forcément. Bon.
Ça vous a pas
vraiment mon truc.
C'est pas votre truc. Mais quand même, on a dit que vous visiez un poste de ministre de l'Intérieur en 2018.
Non, j'ai jamais visé un poste de ministre de l'Intérieur.
D'aucuns l'ont dit.
C'était dans les journaux et j'ai eu le tort de pas démentir. Là, effectivement, j'ai peut-être péché par égo, hein, c'est ce que je dis. J'aurais mieux fait, effectivement, de dire tout de suite que non. Mais je suis pour rien dans les rumeurs qu'il y a eu, effectivement, dans les médias. Pas plus que celles qu'il y a eu pour ministre de la Justice.
Ah bah justement, on va se retrouver dans un instant. Vous me servez ça, mais alors sur un plateau. On va se retrouver dans un instant parce qu'effectivement, on s'est dit à un moment donné, eh bien, François Molins, il va devenir ministre de la Justice. Il va aller à la place Vendôme dans le gouvernement Castex. C'était en juillet 2020 et c'est Éric Dupond-Moretti qui a été nommé. On va en parler dans un instant, d'accord ? À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en votre compagnie, François Molins. Est-ce que la justice, selon vous, est indépendante ? Est-ce que vous avez été déjà confronté à des pressions du milieu politique ?
Alors la justice, elle est indépendante. Elle l'est, hein, et il faut qu'elle le soit. Pour autant, dans un parquet, c'est un petit peu différent, puisque dans un parquet, il y a un phénomène de subordination hiérarchique. On est subordonné à son procureur, lequel est au procureur général, lequel est au garde des Sceaux. Donc moi, j'ai effectivement connu au début de ma carrière des instructions de classement.
Et des désillusions. Hein.
Oui, une grosse désillusion, où on m'a fait classer une affaire politico-financière que 3 ans après le début de ma carrière, ce que j'ai très très mal vécu. Je me suis exécuté. J'ai peut-être manqué de courage, d'ailleurs, à l'époque.
Vous aviez quel âge ? C'était
J'avais 27 ou 28 ans, mais ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis juré que ça ne m'arriverait plus jamais.
Et ça a été le cas ?
Oui, ça ne m'est plus jamais arrivé.
On n'est jamais venu vous chercher ?
Non.
D'accord.
En tout cas, quand j'ai senti effectivement des sortes de pressions, parce qu'elles sont rarement avouées, hein, c'est souvent assez insidieux tout ça, j'ai toujours fait en sorte de faire mon métier en toute indépendance dans le cadre de la gestion des affaires individuelles. Mais il faut dire aussi que c'est beaucoup plus facile depuis 2013, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a une loi qui interdit aux politiques de venir donner ce type d'instruction.
Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, c'est la raison pour laquelle vous avez, à vos débuts, notamment à Carcassonne, assisté à ce genre de choses. En juillet 2020, je le disais, votre nom, il a circulé pour la place Vendôme dans le gouvernement Castex, et c'est Éric Dupond-Moretti qui a été nommé. Et vous avez besoin de le préciser, vous aviez déjà clarifié la situation auprès d'Hélène Daveau, la conseillère justice du président de la République.
Oui,
donc, on savait que vous ne en vouliez pas de ce poste.
Alors après, est-ce qu'elle était missionnée pour en parler ? Mais effectivement, je racontais dans le livre qu'un jour, au cours d'une réunion avec elle, elle m'a demandé, François, est-ce que vous seriez intéressé par le poste ? Et je lui ai dit non.
D'accord.
Mais encore une fois, moi, j'ai jamais eu d'ambition politique. J'ai pas à chercher.
Parce qu'on dit que vous l'avez mauvaise.
Non.
On a dit. Alors, on va expliquer pourquoi à nos auditeurs. Ouais. Selon le garde des Sceaux, selon Éric Dupond-Moretti, vous êtes responsable de sa comparution en novembre dernier devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il a été depuis relaxé. J'invite nos auditeurs, s'ils veulent découvrir effectivement les dessous de cette affaire et l'explication vraiment de l'origine de cette affaire, à écouter l'émission que l'on avait consacrée à cela justement. Vos différends, ils ont animé le procès et il affirme que vous souhaitiez régler des comptes.
Non, j'ai jamais fait des dossiers des affaires personnelles. Hein. Je dis aux jeunes magistrats en permanence qu'il faut surtout pas faire d'un dossier une affaire personnelle.
Ce qui simplement a été reproché à Éric Dupond-Moretti.
Mais moi, je me suis trouvé en charge d'une compétence qui était la mienne, que la loi me donnait comme procureur général à la Cour de cassation. J'étais autorité de poursuite devant la CJR. Donc en réalité, j'ai fait mon travail. Et je trouve que derrière tout ça, il y a une forme d'inversion des rôles et des responsabilités. Alors, Monsieur Dupond-Moretti a été relaxé, dont acte, dans une décision qui constate que les éléments matériels de la prise illégale d'intérêt sont constitués, mais qu'il n'avait pas l'intention. Donc il est relaxé. Mais après tout, c'est pas moi qui me suis mis dans une situation de conflit d'intérêt. C'est pas moi qui ne l'ai pas résolu, alors que j'aurais dû la résoudre. Hein. C'est les obligations des ministres quand ils sont nommés. Et encore une fois, si j'ai poursuivi M. Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République, c'est que j'y étais obligé, puisqu'il y a à la CJR, pour employer l'acronyme...
La Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République, une commission des requêtes composée de membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, qui est là pour donner le feu vert aux poursuites. À partir du moment où cette commission a donné le feu vert aux poursuites, le procureur général est obligé de poursuivre. Donc, j'ai poursuivi, mais n'importe quel procureur général aurait fait comme moi, parce qu'il y était obligé.
Sa nomination, elle avait suscité incompréhension et crispation au sein de l'institution judiciaire, et sa reconduction constitue, selon vous, une entrée en absurdie, et créer le risque d'une nouvelle crise institutionnelle.
Oui, parce que la crise institutionnelle, elle résultait finalement de nos positions respectives. Hein. Moi, j'étais poursuivant procureur général à la Cour de cassation. Lui était garde des Sceaux, donc en charge finalement de la préservation des institutions. Et en se défendant, il venait mettre en cause l'impartialité de son autorité de poursuite et des juges d'instruction qui travaillaient sur son affaire. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'absurdie. On était véritablement dans une situation qui était, en fait, qui était un peu schizophrénique. Mmh. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer dans le livre. Il ne s'agit pas de refaire un procès. Hein. Je rappelle la décision de relax au début du chapitre et à la fin. Il s'agit de reprendre le fil de l'histoire et d'essayer de rappeler le plus objectivement possible ce qui s'est passé et quel rôle j'ai eu dans tout ça. Voilà.
François Molins, Robert Badinter est mort le 9 février dernier. Vous lui avez rendu hommage avec des mots très forts et vous avez parlé de lui comme étant une conscience. Oui. Est-ce que cette conscience manque à la justice aujourd'hui ? Je ne parle pas de Robert Badinter précisément, mais je parle là pour le coup d'une justice... Est-ce que la loi fait la justice ? Est-ce que vous avez confiance en la justice, François Molins ?
Oui, moi j'ai confiance en la justice de mon pays, mais la justice, elle est aussi rendue par des hommes et des femmes, hein, et il faut leur donner les moyens de la rendre correctement. C'est tout le sens de la tribune des jeunes magistrats il y a 2 ans, de leur donner le moyen de préserver le sens de leur action, donc de leur donner les moyens de rendre des décisions de qualité, et surtout de prendre le temps d'écouter les justiciables.
Mais alors justement, est-ce que la justice est humaine ou est-ce que vous allez me dire que c'est pas le rôle de la justice de l'être ?
Je pense que la justice il y a toujours une part de violence dans la justice, hein, mais il y a aussi des formes de justice douce, hein, à travers la médiation et la conciliation qu'on peut utiliser quand on a le temps de le faire. On peut pas l'utiliser pour tout, j'en conviens, hein, notamment pour les crimes les plus graves, mais bien sûr qu'il y a de la violence dans la justice. Et elle est omniprésente, la violence dans la justice.
Et est-ce que vous pensez que la loi fait la justice ? Est-ce que la stricte application de la loi, c'est une question que je pose dans un de mes livres et que je veux vous poser puisque vous êtes en face de moi. Est-ce que vous pensez que la stricte application de la loi rend justice ?
Pas forcément. Je pense que le juge, il est là pour interpréter la loi et pour l'appliquer, mais il y a aussi une part d'équité. Il faut savoir, j'allais dire, faire les adaptations nécessaires pour tenir compte au mieux des situations dans le cadre desquelles on va rendre des décisions. C'est pas toujours possible, mais je pense que quand on peut effectivement introduire l'équité dans le jugement qu'on va rendre aux justiciables, pour moi c'est une bonne chose. Mais encore une fois, c'est pas toujours possible et il y a aussi des situations dans lesquelles le juge va rendre des décisions qui seront fondées en droit, mais qui ne seront pas forcément toujours équitables,
juste,
populaires, et Juste, bon, son premier devoir, c'est d'appliquer la loi quand même. Mais des décisions qui seront peut-être très impopulaires. Alors que pourtant, il a appliqué le droit.
Est-ce qu'il est des choses, ce sera ma dernière question, sur lesquelles on doit rester particulièrement vigilant en termes de justice française ?
L'indépendance. Je pense que la justice est un service public de l'État, mais c'est pas un service public ordinaire. C'est un service public à valeur constitutionnelle. Donc c'est un service public qui porte certaines valeurs qui doivent vraiment... vivre et transparaître au quotidien, c'est effectivement c'est l'indépendance, c'est la probité, c'est l'impartialité, c'est le sens de l'écoute, c'est l'humanité, c'est aussi l'humilité, parce que c'est un travail dans lequel on peut se tromper. Je dis toujours, il faut jamais se croire en permanence dans le vrai, parce que c'est là qu'on a les plus grandes chances d'effectivement de mal faire, de se tromper. C'est tout ça effectivement qu'il faut faire transparaître dans ce métier.
Merci beaucoup François Molins d'avoir accepté notre invitation. Au nom du peuple français Mémoire, c'est un ouvrage que je conseille, paru chez Flammarion. Merci à vous.
Merci.
Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bisset. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un prochain numéro de Jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL et je vous remercie pour votre fidélité. À demain.